En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La calibration astronomique des échelles de temps, c'était l'objet de la conférence de Jacques Lascar, astronome, membre de l'Académie des sciences, une conférence donnée en mars 2009 au bureau des longitudes à l'Institut de France. L'orbite de la Terre et l'orientation de son axe évoluent lentement dans le temps à cause des perturbations gravitationnelles. Ces changements provoquent une variation de l'insolation à la surface de la Terre et la théorie de Milankovitch au cours de la première moitié du XXe siècle affirmait qu'elle était à l'origine des perturbations glaciaire du Quaternaire. Cette théorie a été officiellement adoptée en 2004 par les spécialistes. Elle vous est aujourd'hui expliquée en détail dans cette conférence de Jacques Lascar. On l'écoute.
Alors là, je vais vous parler de la relation en fait entre les climats et les mouvements de l'orbite de la Terre. Et donc, on se doute que comme l'insolation, c'est-à-dire la quantité de soleil reçue à la surface de la Terre, dépend de la position de la Terre par rapport au soleil et de son orientation. Eh bien, c'est les variations climatiques du passé ont été enregistrées à travers les sédiments et les glaces. Et ce qu'on étudie, c'est aussi la relation entre ces sédiments et les variations de l'orbite de la Terre. Alors, je vais commencer par des choses extrêmement simples, qui est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le climat sur Terre dépend de la position et de l'orientation de la Terre par rapport au Soleil. Alors, une chose la plus importante, c'est la position, c'est-à-dire en gros, à quelle distance faut-il placer la Terre par rapport au Soleil pour avoir une vie confortable sur Terre, je dirais. Donc, on est amené à se poser la question de la température d'une planète. Donc, le Soleil émet, si on se place à une unité astronomique, le Soleil émet 1,3 kilowatts par mètre carré, donc ça fait l'équivalent d'un radiateur électrique par mètre carré, donc c'est énorme. Et bien sûr, ceci va se répartir va dépendre de la distance de la Terre au Soleil. La quantité d'énergie se répartit sur une sphère de rayon A, la distance Terre-Soleil. Donc la quantité va varier comme l'inverse du carré de la distance. Comme la surface de cette sphère. Une partie du rayonnement est réfléchie. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fonction de la réflectivité de la planète, c'est-à-dire l'albédo. Donc, on a une partie qui est réfléchie. Donc, maintenant, la puissance reçue, c'est multipliée par... C'est légèrement diminué, donc suivant l'albédo. Et puis, la planète réémet dans toutes les directions. Donc, ce qui intercepte, c'est le disque de la planète, et ce qui est réémé, c'est l'ensemble de la sphère. Donc, la puissance réémise dépend de la surface de la sphère. Et on peut relier, pour un corps noir, pour un corps standard, la température à la puissance émise. Donc, la température, la puissance varie comme la puissance 4 de la température. Donc, maintenant, pour trouver la température de la planète, on dit tout simplement que la puissance incidente est égale à la puissance réémise. Et puis on fait un petit calcul et on trouve la température. Voilà, donc vous avez là directement comme ça la température de la planète, fonction de la distance de la planète au Soleil. Alors ça donne, donc on a une petite formule, qui vient de ce calcul élémentaire, c'est un calcul qu'on peut faire en terminale, je dirais, ou en première, et on a la température de la planète. Alors on peut comparer ce que donne le calcul qu'on fait de cette manière aux mesures. Donc on a pour les différentes planètes du système solaire, leur distance au Soleil, le demi-grand axe, l'albédo, donc la quantité réfléchie, et puis la température calculée avec cette petite formule et la température mesurée, donc la température moyenne mesurée sur la planète. Donc, vous voyez, dépendant des planètes, on peut considérer que cette formule marche bien ou marche mal. Je vais voir à partir de quel moment on a eu l'arsène. Mais... Donc, en gros, moi, je trouve que ça marche pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez Mercure, 445 avec cette petite formule, et la température mesurée, c'est 440. Je trouve que c'est bien. Donc, il y a des planètes pour lesquelles ça marche un peu moins bien, mais... Alors en fait, vous voyez, je vais pas considérer les planètes externes, j'en parle pas trop, parce qu'en fait, là, il y a une source. Là, la température mesurée est plus chaude que la température calculée. Ça, c'est parce qu'il y a une source de chaleur interne qui vient du début de réaction au centre de ces planètes, effet échauffement gravitationnel. Mais pour les autres planètes, pour Mars, regardez, c'est pas mal, en fait, 218 par rapport à 210. Même pour les autres, je dirais que par rapport à des modèles cosmologiques, c'est pas si mal. Mais on voit bien que pour Vénus et la Terre, il y a quand même une différence notable. Alors pour Vénus, très importante. Et puis pour la Terre, quand même. Alors 255 à 288, on peut se dire que ce n'est pas tellement différent. C'est jamais que 10% d'erreur. Mais ce qui compte, c'est la température absolue. Alors, si je me place en température Celsius, on voit que ça fait une grosse différence parce que 255, c'est moins 18 degrés de température moyenne et 288, c'est 15 degrés Celsius. Donc, on voit que... déjà, on voit une chose, c'est que quand on parle de température à la surface de la Terre, des petites variations en pourcentage... se traduisent par une différence énorme pour ce qu'on peut en ressentir. Parce qu'en fait, ces pourcentages, c'est toujours par rapport à la température absolue. Et donc là, vous voyez que, donc, première remarque, c'est que 10% de différence, c'est énorme. Deuxième remarque, donc d'où vient cette différence? Il faut sans doute améliorer le modèle. Donc, je sais bien que ce n'est pas si facile que... Mais enfin, donc j'imagine que vous savez ce qui manque. Bon, personne ne sait. Bon, ben, tant pis, on s'arrête. Pourtant, on en parle pas mal ces derniers temps. Alors, j'imaginais que ça aurait... Donc, effectivement, c'est l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, comme on en parle beaucoup, donc j'ai voulu quand même donner un petit modèle pour comprendre un peu l'effet de serre et voir comment ça transforme ce calcul. Donc là, je modélise tout simplement l'atmosphère par une seule couche qui est perméable au rayonnement de courte longueur d'onde incident. Et puis, on réémet en infrarouge, et donc l'atmosphère est imperméable au rayonnement réémis. Donc, l'atmosphère va chauffer et va réémettre dans les deux directions, de manière identique. Donc, ici, maintenant, on écrit tout simplement un bilan thermique entre les deux, hein, que la puissance émise est la même que la puissance incidente, et puis tout simplement la puissance E, là, ben, c'est à la fois ça plus ça, donc ça fait deux fois PA, et puis on écrit ceci, on se rappelle de la loi qui donne la température fonction de la puissance, et on obtient que la température maintenant, c'est plus celle de tout à l'heure, mais 1,19 fois celle-là. C'est-à-dire maintenant, je vais trouver, de manière très simple, je trouve 303 kilos Kelvin. Donc 30 degrés. Bon, alors on peut considérer que c'est mieux, mais oui, pour Vénus, on pourra en parler tout à l'heure, mais déjà pour la Terre, on peut essayer d'améliorer un petit peu le... Donc 30 degrés, donc c'est ce que donne une couche, complètement imperméable. Alors on voit que c'est un petit peu trop fort, donc ce qu'on va faire, c'est on va améliorer un peu le modèle, on va juste laisser passer une petite fraction du rayonnement à travers cette couche, donc on considère qu'elle n'est pas complètement imperméable. On refait le calcul, je vais passer très vite. Et là, je vais choisir au hasard 22% pour la quantité qui est la quantité qui est qui le pourcentage qui passe à travers l'atmosphère. Et là, je trouve 15 degrés. Donc, vous voyez, ça marche bien. Alors bon, Christian me parle de Vénus. Pour passer à Vénus, ce n'est pas compliqué. Vous mettez trois couches successives et vous arrivez à Vénus. Donc, c'est un peu la manière de faire. Mais ce que je veux faire comprendre là, c'est un petit peu la contribution due à l'effet de serre. Et ce que vous voyez, c'est qu'il ne faut pas changer beaucoup. En gros, la marge de l'effet de serre, c'est de passer, on peut considérer à une seule couche, mais c'est de passer de ces 15 degrés. Je change un peu le pourcentage ici de ce qui est retransmis et je vais passer à 30 degrés. Donc vous voyez, on a 15 degrés de marge. Et en fait, quand on parle actuellement du global, du réchauffement global, hein, ça c'est les courbes de température donc enregistrées dans le dernier siècle, En fait, donc on a ces courbes sur 100 ans, et puis on a les projections ici dans le futur. Hein, tous les modèles donnent à peu près la même chose, c'est-à-dire quelque chose du genre de 5 degrés, là vous voyez 3-4 degrés, 3-5 degrés d'augmentation. Donc vous voyez, pour changer finalement de 3 à 5 degrés, c'est pas compliqué, il suffit de changer un tout petit peu le coefficient alpha là, de l'atmosphère, donc changer un peu la composition de l'atmosphère, on va moduler l'effet de serre. Et pourquoi ces modèles donnent à peu près tous les mêmes choses ? Eh bien, c'est parce qu'ils injectent les changements de composition d'atmosphère qui ont été enregistrés en même temps. Donc ça, c'est les enregistrements des changements en composition des gaz à effet de serre en dioxyde de carbone, méthane, qui ont été donc les changements de l'atmosphère. Donc ça, c'est la partie, je dirais, atmosphère. Ça vous dit aussi que une température d'une planète, ça dépend beaucoup de la composition de l'atmosphère. Mais là, moi, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de changements, donc indépendants de ces changements de composition d'atmosphère ou de modèle climatique. Je vais changer de manière différente la température d'une planète à la température de la Terre. Tout simplement, je vais reprendre la relation de tout à l'heure, et qui nous dit que la température varie comme l'inverse de la racine carrée de la distance Terre-Soleil. Et ce que je vais faire, c'est je vais changer la distance de la Terre au Soleil. Donc si je change la distance de la Terre au Soleil, en fait, la variation de température relative, c'est la moitié de la variation de demi-grand axe. Donc si je change de 0,2 UA, je change de 20%, je change de 10% la température à la surface de la planète. Ce qui vous dit que je change de 30 degrés. Donc vous voyez que 30 degrés de plus en température moyenne, ou 30 degrés, là on n'est pas dans les 5 degrés, c'est plus important. Hein, là. Et ça vous donne finalement, ça vous donne les limites d'une planète habitable. Hein. Si on enlève en gros 15 degrés, on va se retrouver avec une planète entièrement gelée. Et puis si on augmente de 15 degrés, on va faire un emballement d'effet de serre. Et là, ça va nous dire que finalement, la zone habitable, eh bien, là, j'ai même compté 30 degrés de différence. Donc 30 degrés en moins, ça donne une planète à moins 15. Donc là, il n'y a pas en planète entièrement gelée. 30 degrés de plus, ça fait 45 degrés de température moyenne, donc aussi une planète invivable. Donc ça vous dit tout de suite, comme ça, avec presque rien comme calcul, que autour d'une étoile, la zone habitable, eh bien, elle est entre 0,8 et 1,2 unités astronomiques. Et ça, c'est avec un calcul, je dirais, sur le dos d'une enveloppe. Et si on prend des modèles plus compliqués avec des modèles atmosphériques, en fait, vous obtenez à peu près la même chose. Hein, donc ça nous dit qu'on a autour d'une étoile, eh bien, on a une zone habitable qui est en gros pas très grande autour d'une unité astronomique pour une étoile de type solaire. Donc ça, c'est des gros changements. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour ce qui est de la Terre et de son histoire, on n'a pas de changement de demi-grand axe. Donc on n'a pas eu des changements de la distance Terre-Soleil comme ça. En revanche, ce qu'il y a, c'est que l'orbite de la Terre est une ellipse, donc la distance au Soleil n'est pas toujours la même. Des fois, on est au périhélie, on est au plus près, des fois, on est à l'aphélie, on est au plus loin. Donc là, on peut s'intéresser aux variations saisonnières. Ce que j'appelle variations saisonnières, c'est les variations au cours de l'année. Donc déjà, je regarde les variations sur l'ellipse, donc en fonction de la position sur l'ellipse, les variations, je dirais, périhélie-aphélie. Donc quand je suis au périhélie, je suis au plus près. Et là, on peut écrire une petite formule qui est intéressante parce que, d'abord, je ne l'ai pas vue souvent écrite, mais c'est simplement la variation de température entre le périhélie et l'aphélie, c'est l'excentricité. Si je fais ce calcul, je trouve que la variation relative entre le périhélie et l'aphélie, c'est tout simplement l'excentricité. Donc actuellement, l'excentricité de la Terre, c'est 1,7%. Donc on aura une variation de température de 5 degrés. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà, c'est pas négligeable, hein, 5 degrés. Donc ça, ce serait la température d'une planète qui resterait à l'aphélie ou bien qui resterait au périhélie. Donc ça fait déjà 5 degrés de température. Donc ça va... Alors bien sûr, c'est valable pour toute la Terre. Hein. aussi bien hémisphère nord qu'hémisphère sud. Donc ça, vous savez bien que ce n'est pas ça l'origine des saisons. En fait, actuellement, on est au périhélie en hiver. Donc ça, c'est ce qui, donc ces 5 degrés vont compenser, vont réduire le contraste des saisons dans l'hémisphère nord et l'accentuer dans l'hémisphère sud. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est de voir là, que ça compte pour 5 degrés. Et bien sûr, les variations les plus importantes, ce sont les variations dues à l'orientation de l'axe de la Terre. Donc là, on peut regarder ce qui se passe à 45 degrés de latitude à midi. Et en hiver, on aura du soleil avec une incidence de 22 degrés. Et puis en été, une incidence de 68 degrés. Donc là, ça donne des changements beaucoup plus importants, puisque si je regarde les puissances incidentes, eh bien, je fais le rapport des deux puissances incidentes, et là, je trouve que je reçois 2,5 fois plus de soleil en été qu'en hiver. Donc là, ça me donnerait une température 25% plus importante. Mais bien entendu, là, ça compte moins, parce que c'est 25% plus importante, c'est énorme. Mais ce serait pour quelque chose qui resterait toujours à midi à la position. Donc c'est juste pour montrer un peu là, du coup, l'effet important dû à l'obliquité, et que finalement, ce qui compte dans les saisons, c'est plus l'obliquité, donc c'est 23 degrés d'inclinaison, que les petits changements, enfin changements petits mais non négligeables, de 5 degrés dû à la variation périhélie-aphélie. Et en fait, finalement, les changements climatiques du passé, eh bien, c'est là une combinaison de tous ces effets, donc distance, excentricité et variation d'obliquité. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie astronomique des paléoclimats. Hein, et puis, ça a commencé finalement dès qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des grands changements climatiques dans le passé, après que Agassiz ait trouvé donc l'existence de périodes glaciaires dans les Alpes. Et ce s'est succédé donc à travers différents éléments, en fait différents, qui ont rajouté successivement les différents ingrédients qui étaient nécessaires à la compréhension de ces mécanismes. Alors d'abord Ademar, lui, il avait pris en compte justement la date des saisons, c'est-à-dire la précession de l'axe de la Terre, qui fait qu'on a l'été en hémisphère nord, au périhélie ou à l'aphélie. Bon, mais effectivement, ce n'était pas suffisant. Autre chose importante, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la distance moyenne Terre-Soleil, c'est-à-dire le demi-grand axe de l'ellipse, lui, ne change pas. Ce n'est pas la distance moyenne, je dirais plutôt le demi-grand axe de l'ellipse ne change pas. Parce que, donc ça, c'est un résultat qui date du XVIIIe siècle, hein. On n'a pas de variation à long terme des demi-grands axes des orbites planétaires. En revanche, on a des variations de l'excentricité. Et là, c'est Kroll qui a le premier tenu compte de ses calculs en 1890. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les calculs de Le Verrier. Le Verrier avait calculé une solution à long terme de l'évolution de l'orbite de la Terre, donc la variation d'excentricité. Et donc, ce qu'a fait Kroll, c'est qu'il a déjà tracé ces variations. Donc, vous voyez, ici, c'est zéro est ici, et puis ici, c'est des centaines de milliers d'années, hein, c'est 100 000 ans, donc là, c'est moins 1 million d'années, ou c'est 50 000 ans l'échelle. Et ce sont les variations de l'excentricité de la Terre, de 0 à 0,06. Donc là, je vais vous redonner le même graphique, disons, de manière plus moderne. Donc voilà les variations de l'excentricité de la Terre, qui varient de 0 à 0,06, donc de 0 à 6%. 2 millions d'années en arrière, 1 million d'années en avant, avec des périodes qui sont, les périodes principales sont de l'ordre de 100 000 ans, et de même pour l'inclinaison de l'orbite de la Terre. Alors, si on voit ça, bon, ben ça, c'était l'inclinaison. Alors là, c'est par rapport à un plan de l'écliptique de la date, mais par rapport au plan invariant, ce sera à peu près la même chose. Donc là, vous voyez, maintenant, on a une excentricité qui peut changer. Donc actuellement, elle est relativement faible, mais elle peut bouger. Donc à 6%. Alors si je prends la valeur actuelle, vous avez 1,7%, donc ça donne 5 degrés de différence. Mais si je prends maintenant 6%, donc la valeur maximum, maintenant vous avez 17 degrés de différence. Donc vous voyez 17 degrés de différence entre position périhélie, position aphélie. Donc là, ça commence à compter beaucoup dans le changement climatique. Autre changement, donc l'obliquité. L'obliquité, donc l'orientation de l'axe de la Terre. On a vu que ça comptait beaucoup pour le contraste aussi saisonnier. Et bien là, lui varie de 1,5 degré autour de la valeur moyenne. Ces variations, en fait, sont dues aux variations du plan de l'orbite de la Terre. Comme le plan de l'orbite de la Terre bouge, et bien l'axe de la Terre va bouger aussi. Et donc, combinés, tous ces éléments vont donner des variations de l'ordre de 20% dans l'insolation reçue en été dans les hautes latitudes. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'insolation dans les hautes latitudes ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la limite de la calotte polaire. Et en gros, le mécanisme de Milankovitch, c'est de dire que si les glaces qui sont accumulées pendant l'hiver ne fondent pas parce que l'été n'est pas assez chaud, eh bien, il y a accumulation d'une année sur l'autre et du coup, refroidissement global de la planète et entraînement vers une période glaciaire. Alors ça, ça a été avancé donc, dans les années 40. Et ça n'a, je dirais, eu de succès... Le succès a vraiment été quand on a pu faire des mesures précises des températures, trouver une trace des températures passées donc de la Terre. Et ceci, ça s'est fait à travers essentiellement les mesures. Les premiers, ça a été les premières mesures quantitatives, les mesures de rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16, aussi bien dans les sédiments marins que dans les calottes de glace. Donc je vous rappelle comment ça marche. Hein. Dans l'eau, on a de l'oxygène 18 et de l'oxygène 16. Par évaporation, c'est surtout le plus léger qui s'évapore, donc l'oxygène 16. Et ensuite, on va avoir redéposition sur les calottes polaires. Donc quand on a une calotte polaire épaisse, ça veut dire qu'on a retiré beaucoup d'oxygène 16 de l'océan, donc on a augmenté le rapport oxygène 18 sur oxygène 16. Ensuite, il suffit de retrouver la trace de ce rapport. Eh bien, dans les carottes de glace, on fait des forages directs, mais ça marche jusqu'à à peu près 800 000 ans. Et puis, dans les océans, il y a les foraminifères. Les foraminifères donc, sont des petits animaux qui ont des coquilles, et les coquilles sont en carbonate, donc sont fabriquées à partir de l'oxygène de l'océan. Finalement, ce que fait le foraminifère, c'est qu'il enregistre de manière instantanée le rapport isotopique oxygène 18 sur oxygène 16 dans l'océan. Une fois que l'animal meurt, la coquille se dépose au fond des océans et on a comme ça accumulation de ces couches et donc enregistrement de ce rapport isotopique et donc de l'épaisseur de la calotte polaire de l'époque et donc de la température moyenne à la surface de la Terre à l'époque. Donc ça, ce sont les résultats, les variations ici données par les carottes de glace sur 800 000 ans où on a ces cycles de 100 000 ans à peu près qui sont donc les périodes glaciaires et interglaciaires. Ce qu'il faut voir, c'est que on est à peu près sur un cycle de 100 000 ans, on est à peu près tout le temps en période glaciaire, et puis en fait 20% du temps en période interglaciaire. Donc actuellement, on est dans une période interglaciaire qui correspond donc qui est la période actuelle. Alors dans les sédiments, voilà, comment est-ce qu'on retrouve les données sédimentaires ? On les retrouve à travers des forages, et si possible, des forages dans des eaux profondes. Comme ça, il n'y a pas eu d'altération importante du sédiment. On espère que le sédiment s'est déposé de manière relativement continue. Et donc, il y a ces forages qui sont faits par le programme ODP et IODP, donc Ocean Drilling Programme. Donc on a un bateau qui va forer sur plusieurs kilomètres ou sur un kilomètre typiquement. Donc un fond marin qui est déjà à 3 kilomètres de profondeur. Donc ça demande beaucoup de tuyaux. Et il faut aussi que le bateau reste sur place pour pas. Donc il a 3 kilomètres de tuyaux sous lui. Donc faut pas qu'il bouge de trop. Ce qui fait que Les collègues géologues qui font ça, c'est amusant quand c'est dans le golfe du Mexique, mais comme certains échantillons demandent à être plutôt forés au niveau des 40e rugissants, il paraît que d'être sur un bateau qui doit rester immobile alors qu'il y a un peu de tempête, c'est pas très drôle pour l'équipage qui peut être assez malade. Alors, un exemple de corrélation. Donc, ensuite, on regarde la corrélation entre l'insolation donc calculée à la surface de la Terre Et puis, une donnée donc, obtenue dans ce forage. Là, ce n'est pas un forage océanique, en fait, c'est un autre type de forage. Ça, c'est sur 2 millions d'années, enfin, de 2,4 millions à 2,8 millions. Je montre cette courbe parce que c'est une courbe où, c'est un indicateur qui est supposé être un indicateur d'aridité, donc un rapport entre titanium et aluminium. Et en fait, l'intérêt de cette courbe, c'est qu'on a une relation assez linéaire entre la variation de l'indicateur et puis la variation d'insolation. Et alors, ce qu'on va faire, c'est bien sûr, dans le cas du forage, ce qu'on a, c'est on a la variation de l'indicateur fonction de la température, fonction de la profondeur. Dans l'autre cas, on a la variation d'insolation fonction du temps. Et le problème, c'est que bien sûr, la sédimentation n'est pas constante. Des fois, c'est un peu plus fort, des fois, c'est un peu plus... Donc là, on n'a pas du tout, on n'a pas une échelle temporelle en haut. Donc ce qui va être fait, c'est de corréler les pics d'amplitude entre les données géologiques et les données, donc les calculs astronomiques. Et comme ça, par cette corrélation, qui est indiquée par ces lignes blanches, on va obtenir une échelle de temps pour l'ensemble géologique. Alors ça marche assez bien. Disons que ça marche suffisamment bien pour que la dernière échelle de temps internationale, hein, donc celle publiée essentiellement en 2004, elle a été revisée en 2008, mais sans grand changement, eh bien, dans cette échelle de temps, toute la partie la plus récente, c'est-à-dire le néogène jusqu'à 23 millions d'années, est maintenant calibrée astronomiquement. Donc c'est une calibration astronomique à partir de... par corrélation à une solution donc de variation d'insolation calculée, que nous avons calculée donc à partir de la mécanique céleste. Alors ça marche suffisamment bien pour qu'on ait aussi maintenant en projet la calibration de l'ensemble du Cénozoïque jusqu'à 65 millions d'années. Alors ça en fait, ce sont des projets, disons que les déterminations de ces forages, ça demande des collaborations importantes parce que il faut mettre ensemble plein de forages qui ont été faits à des endroits très différents. Il y a tout un travail d'analyse aussi des différentes petites bêtes qui se trouvent à un endroit ou à un autre. Donc ça, c'est des dizaines d'années d'efforts à plusieurs groupes. J'ai passé là-dessus. Ça, c'est en fait pour donner un peu l'ensemble de cette échelle de temps géologique. Et ce qui est l'essentiel des temps, en fait, j'aurais dû le dire tout à l'heure, l'essentiel des temps, des dates et avant cette calibration astronomique est dû à la radiogénie. C'est-à-dire on mesure les rapports isotopiques, oxygène, toutes ces datations ici sont obtenus de manière, en dessous du 23 millions d'années, tout cela sont obtenus de manière radiogénique, avec des rapports isotopiques argon-argon ou bien uranium-plomb pour les périodes les plus anciennes. Alors, en fait, le problème, c'est la détermination des incertitudes sur ces mesures radiogéniques. Disons que ça, c'est un gros problème. Et en fait, toutes essentiellement, donc ça, ce sont ces incertitudes, mais je dirais qu'il semble que toutes ces incertitudes soient sous-estimées. Les incertitudes réelles sont bien plus grandes parce qu'en fait, on peut mesurer assez précisément un rapport isotopique d'un échantillon donné et on a tendance des fois à mettre ceci comme erreur, l'incertitude sur cette mesure, mais en fait, il y a aussi l'incertitude sur les constantes de temps du decay radioactif, il y a l'incertitude sur l'échantillon pris au sein d'une même roche. Donc tout ça entraîne des grosses variations. Et en gros, les mêmes échantillons donnés à différents laboratoires différents peuvent donner des résultats qui varient sensiblement. Donc ça, c'est un essai de donner l'amplitude des erreurs un peu pour les différentes périodes de temps. Vous voyez, c'est les données radiogéniques. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut espérer par calibration astronomique, mais on n'en est pas encore là. Il n'y a pas du tout de calibration astronomique. La calibration astronomique, c'est faite ici seulement. Une chose intéressante, c'est de voir l'évolution au cours de temps de ces âges géologiques. Donc, vous voyez qu'il y a eu des grosses variations entre les datations de 1937 et celles de 2004. Hein. Donc, ça change beaucoup. Ça vous montre un peu la difficulté de ces problèmes. Alors, je vais passer à un exemple d'échantillons justement de ces analyses. Qui est intéressant parce que ce qui nous intéresse, là, c'est des essais de datation de la limite Crétacé tertiaire. Enfin, maintenant, on dit Crétacé paléogène. et dans une région qui est la région de... Donc vous voyez, ça c'est la vie des géologues de terrain. Je comprends en fait que des gens puissent faire de la géologie de terrain. Et donc ça c'est à Zumaya, c'est en Espagne, sur la côte basque. Et on a là des données sédimentaires avec l'enregistrement de la frontière crétacé-tertiaire. Alors ce sont des alternances marno-calcaires, on a des marnes et des bancs calcaires, et ces alternances sont attribuées à des cycles de précession. Donc justement ce cycle qui est lié à la précession de la Terre, ces variations importantes d'insolation qui sont dues donc à suivant que l'été a lieu au périhélie ou à l'aphélie, et surtout l'amplitude sera importante dans des moments de grande excentricité de l'orbite de la Terre. Donc on a normalement 23 000 ans à peu près entre ces bancs. Alors, je vous ai parlé des difficultés de la radiogénie. En fait, maintenant, on a tout un programme qui s'est mis en place, qui est de... Il n'y a pas du tout... Au début, je dirais que la calibration astronomique est arrivée un petit peu comme un outsider dans un monde où toutes les datations se faisaient de manière radiogénique. Mais en fait, ce qui s'est mis en place, c'est plutôt une collaboration, essayer de comparer, de voir où il y avait des problèmes. Et là, par exemple, ça, c'est un papier qui vient de sortir l'année dernière. En fait, l'idée, c'est de recalibrer, d'essayer d'intercorréler ces données radiogéniques et ces calibrations astronomiques. Donc là, c'est un exemple de datation dans cette zone de Zumaya. Ici, pour déterminer la limite crétacé-tertiaire, donc là où il y a eu l'extinction des dinosaures. Et en fait, ça vous donne une idée de la complexité des données radiogéniques. En fait, les données radiogéniques ne peuvent être mesurées que dans des cendres volcaniques. Donc, il faut un enregistrement où on a ces cendres volcaniques. Donc là, on commence par ici une série à peu près 6 millions d'années, une série où il y a des cendres volcaniques, et une série où il n'y en a pas, mais où il y a une séquence stratigraphique assez bien régulière. Les deux sont corrélés, et la série stratigraphique est corrélée à l'orbite de la Terre, à travers les calculs d'insolation. Donc vous voyez, on a du coup une corrélation entre ces données radiogéniques et puis les données astronomiques. Et donc ça, c'est les données radiogéniques. Et à partir de ça, ça va réétalonner, on s'en sert pour réétalonner ces mesures radiogéniques. Et ce réétalonnement va permettre ensuite de recalibrer, ici c'est un enregistrement classique qui s'appelle Fish Canyon, donc à peu près à 28 millions d'années, on recalibre la datation à partir de ce nouvel étalonnage. Et ensuite, donc ça c'est à 28 millions d'années, ici on est à 65 millions d'années, mais on a une séquence qui s'étend depuis à peu près 50 millions d'années, et là la datation va... Donc on se sert de cette deuxième étape, et ensuite c'est astronomiquement, ici c'est la variation d'excentricité de la Terre, ça va permettre de repérer maintenant cette donnée de la limite crétacé-tertiaire, donc là qui est réestimée à 65,9 millions d'années. Donc ça vous montre un peu ce qui est en train de se mettre en place. Ça c'est vraiment un programme tout récent, donc ça c'est européen essentiellement. Et maintenant, je vais vous parler, à partir du moment où vous comprenez, donc là, je parle de solutions astronomiques à 65 millions d'années, en fait, c'est un peu, vous allez voir que c'est quand même pas immédiat. Et je vais vous parler maintenant des solutions astronomiques, c'est-à-dire des calculs de l'orbite de la Terre. Alors, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que les travaux de Kroll avaient utilisé la solution de Le Verrier. Donc là je vous mets en fait toutes les solutions qui ont été utilisées dans les calculs des paléoclimats pour comprendre donc ces variations d'insolation à la surface de la Terre. En fait, comme vous voyez, il y a une histoire assez française finalement dans ce domaine, parce que la première solution qui a été utilisée, c'est celle de Le Verrier. Il y a une autre solution qui a été utilisée au moment de ces premières mesures isotopiques oxygène 18 sur oxygène 16. Et en fait, c'est des modifications de cette solution de Le Verrier. Et ensuite, il y a une autre solution due à Pierre Bretagnon qui avait été utilisée dans les années 70. Alors tout ça, c'était fait par des calculs de perturbation, parce que je disais qu'à l'époque, on pouvait pas, il n'y avait pas d'ordinateur. Bon, même si on utilisait les ordinateurs dans les années 70, il ne pouvait pas directement calculer le mouvement des planètes. Maintenant, les calculs se font par intégration numérique directe des équations du mouvement. Et puis entre les deux, ben, il y a eu des solutions un peu mixtes. Bon, je vois que le temps passe, je vais passer assez vite là-dessus. Alors, le problème dans ces calculs, c'est que le mouvement des planètes n'est pas régulier, mais est chaotique. Et chaotique, ça veut dire, en l'occurrence, que l'erreur est multipliée par 10 tous les 10 millions d'années. Donc ça veut dire que si vous avez 10 mètres d'erreur, enfin 15 mètres d'erreur actuellement, bien vous avez 150 mètres d'erreur après 10 millions d'années, mais 150 millions de kilomètres d'erreur après 100 millions d'années. Donc ça vous montre tout de suite qu'on va avoir une limite dans ces calculs précis de mouvement de l'orbite de la Terre. Donc du coup, de possibilité de calibrer astronomiquement ces données. Alors si on se demande actuellement quelle est la précision des meilleures solutions, eh bien on peut considérer que les solutions actuelles qu'on a données, par exemple, sont précises à 40 millions d'années. Donc après 40 millions d'années, on commence à avoir des déphasages dans les excentricités. Donc on saura plus si on a un maximum ou un minimum de l'excentricité. C'est à peu près ça là. Donc tout à l'heure, je parlais de volonté de calibrer l'ensemble du Cénozoïque, c'est-à-dire du coup de calibrer jusqu'à 65 millions d'années. Ça veut dire que par rapport à cette solution donc publiée en 2015, il faut encore faire une amélioration. Donc pour passer de 40 millions d'années à 60 millions d'années, eh bien il faut gagner deux ordres de grandeur. C'est 20 millions d'années, donc il faut deux fois multiplier, il faut gagner un facteur 100 dans la précision de tous les éléments. Alors ça, c'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours, et pour le faire, il a fallu, disons que pour faire ce travail, ce qu'il a fallu faire, c'est recalculer déjà un modèle le plus précis possible du mouvement des planètes, qui lui va être ajusté aux observations. Donc on va ajuster, on fait un modèle où on met tout ce qu'on peut, tout ce qui a une incidence sur le mouvement de l'orbite de la Terre, et on ajuste ceci directement aux observations. Alors là, aux observations astronomiques. Je vais passer assez rapidement. Là, c'est un peu ce qu'on met dans ce modèle. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce modèle ? Ben, les interactions newtoniennes entre les planètes, mais on doit mettre aussi les astéroïdes. Il y a 300 astéroïdes dans le modèle. On a la relativité, on a le fait que le Soleil n'est pas ponctuel, mais est un peu aplati, le fait qu'il y a la Lune, le fait que la Terre est déformée, ce n'est pas une sphère non plus, donc la Lune aussi, on a des effets de marée entre les deux, la déformation induite par un corps sur l'autre. Donc tout ça doit être mis dans ce modèle. Alors ensuite, les observations. Ben, les observations, les meilleures observations qu'on a, ce sont des observations obtenues par les sondes spatiales. Donc là, actuellement, par exemple, on a autour de Mars et autour de Vénus deux sondes spatiales, Mars Express et Vénus Express. Eh bien, ces sondes, par les signaux radio qu'ils envoient sur la Terre, ça nous donne des distances planète-Terre à quelques mètres près. Et donc, on ajuste le modèle à ces données. Et vous voyez ici, là, tout à l'heure, on était dans des incertitudes assez grandes, dans les données géologiques. Là, maintenant, on a des résidus de quelques mètres. Donc ça veut dire que quand on compare le modèle du mouvement de l'orbite de la Terre et de Mars aux observations ici des satellites qui donnent des mesures à quelques mètres près, on a un parfait accord sur la durée des observations. Donc ça, c'est pour Mars. Et pour Vénus, c'est pareil, vous voyez, quelques mètres dans ces données. Ça vous donne une idée de la précision des mesures. On a un autre type de mesure extrêmement précis qui sont les données laser-lune. Donc là, on ajuste aussi le mouvement de l'orbite de la Lune, parce qu'il est essentiel aussi pour comprendre l'évolution de la précession. La Lune est pour beaucoup dans le mouvement de précession de l'axe de la Terre. Donc on a ici ces données laser-lune, donc le tir de laser envoyé depuis en particulier le CERGA, là. Et d'ailleurs, ça va être la remise en route du CERGA là, dans quelques jours, quelques semaines, ça. Donc ça, c'est en fait justement, c'est l'occasion d'en parler. Là, ce sont les données du CERGA. Le CERGA était longtemps en fait le meilleur et par moment l'unique centre où on faisait ces mesures. Donc on envoie un faisceau laser sur les réflecteurs laissés sur la Lune par les missions Apollo, et on mesure le temps d'aller-retour du photon, et on récupère comme ça des données. Vous voyez, on a des résidus de 4,5 cm sur ce durée d'aller-retour. Donc comme ça, on a un modèle, on peut réajuster donc un modèle extrêmement précis qui est ajusté sur l'ensemble des observations. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant prolonger ce modèle sur 1 million d'années et réajuster la solution à long terme sur cette solution extrêmement précise, prolongée sur 1 million d'années. Alors, c'est en cours. Ça a permis de voir qu'effectivement, la durée de validité de la solution de 2004, c'est à peu près 40 millions d'années. Et ça permet déjà d'améliorer, on peut se rendre compte des améliorations ici. Je dirais qu'en rouge, c'est l'écart qu'on avait. Vous voyez, ce n'est pas des gros écarts, ça c'est au bout d'un million d'années. C'est 10-5 sur l'excentricité de la Terre. Donc ce n'est pas gros quand même. Mais voilà ce qu'on avait avec la solution de 2004. Voilà déjà ce qu'on a maintenant. Donc on a gagné un facteur 10 facilement. Peut-être pas 100, c'est pas évident. Et justement pour essayer d'améliorer la durée de validité de ces solutions astronomiques. Vous voyez, voilà la comparaison de plusieurs solutions. Alors là, vous voyez, on est à 30 millions d'années, 40 millions d'années, toutes les solutions donnent la même chose. Et puis ici, 48 millions d'années, on a des petites variations, mais peu importantes pour la géologie. Donc là, vous voyez, maintenant, on est jusqu'à 50 millions d'années, on prédit de manière précise les choses. Et puis après, eh bien, quand je vais au-delà, justement, quand j'arrive vers 60 millions d'années, eh bien là, les solutions se déphasent. Et ça, c'est l'effet du chaos. En fait, on a divergence de ces solutions. Et je ne suis pas sûr, à l'heure actuelle, qu'on va vraiment pouvoir atteindre 65 millions d'années avec une solution précise. La limite est en tout à laquelle on va pouvoir accéder, c'est peut-être plutôt 50 millions d'années que 60, hein, ou la limite, je dirais. Alors c'est intéressant parce qu'ici, on a un événement important qui est un événement climatique important autour de 55 millions d'années. C'est déjà très important d'arriver à mesurer précisément. Alors on peut quand même aller au-delà. Donc vous voyez la limite ici, si on essaye de mesurer directement à ces variations d'excentricité de la Terre, on va être limité autour de 50-60 millions d'années. Mais en fait, on peut quand même aller bien au-delà. Et en fait, il y a un programme qui est un programme de calibration non pas du Cénozoïque, mais de l'ensemble du Mésozoïque qui va jusqu'à 250 millions d'années. Alors, 250 millions d'années, donc là, il n'y a aucune chance qu'on puisse prédire les variations d'excentricité de la Terre. Ce sera forcément déphasé. Mais ce qui se passe, c'est que parmi les oscillations de l'orbite de la Terre, les oscillations de l'excentricité, en fait, tout n'a pas le même statut. Il y a ces oscillations principales qui sont dues, certaines sont dues à Mars, certaines sont dues à Vénus. Celles-là sont relativement instables. On va perdre la phase, on ne va pas savoir où les maximums, minimums. Mais parmi ces oscillations, il y en a une qui est essentiellement due à Jupiter. Et en fait, Jupiter a un mouvement beaucoup plus régulier que les autres planètes. Et du coup, on a un cycle important, qui est un cycle à 400 000 ans, à 405 000 ans, qui est dû à Jupiter et à Vénus. Et en fait, ce cycle se modélise très bien par un simple cosinus. Disons que lui va être comme un battement d'horloge. Et ce battement d'horloge, eh bien, il va durer beaucoup plus que ces 65 millions d'années. Je dirais, on peut utiliser ce battement d'horloge jusqu'à 250 millions d'années sans problème pour faire une calibration complète du Mésozoïque. Vous voyez ici, ça, ce sont les comparaisons entre ce battement et puis les différentes solutions. Et là, vous voyez qu'on n'a pas, ici de différence. La solution, on n'a pas de différence de déphasage entre ces solutions, bien qu'on soit déjà à 70 millions d'années. Donc ça vous montre que c'est vraiment quelque chose de bien stable qui peut être utilisé. Alors, je reviens sur la géologie pour vous donner des exemples encore de calibration qui sont en cours. Et ça, c'est fait. Ce sont des exemples qui sont pris. On a une ANR actuellement, donc un groupement de recherche avec un laboratoire de géologie de Paris 6 et puis qui est avec Bruno Galbrin, donc dans ce laboratoire de géologie, et puis un laboratoire de Dijon pour justement faire ces calibrations. Alors ça, c'est fait à partir d'un... Ça, c'est un travail de Dorothée Husson, donc qui est en thèse, à partir de données de séries sédimentaires. Voilà, alors les données brutes, hein, ici, donc ça c'est autour de 60 millions d'années. L'idée c'était d'essayer de calibrer justement la limite Crétacé-Tertiaire. Et vous voyez qu'ici, donc comment ça se passe? C'est la donnée brute de la carotte, hein, donc ici. Ensuite, un filtrage de ces données dans les bandes de précession. Une modulation de cette précession pour arriver à quelque chose qui ressemblerait à l'excentricité. Et ensuite, un calage de ces deux. Et en faisant ça, elle aboutit à 65,8 millions d'années pour cette limite Crétacé-Tertiaire. Vous voyez, c'est très proche en fait, de ce qu'ont obtenu les collègues hollandais dans le papier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple, ça, c'est une série donc, en Italie. Et alors là, c'est moins drôle que le Zumaya qui est au bord de la mer. Là, c'est en fait derrière un grillage sur le bord de l'autoroute. Donc, de temps en temps, les géologues n'ont quand même pas des conditions idéales. Et là, ce qui est intéressant, c'est encore cette limite Crétacé-Tertiaire ou Crétacé-Paléogène. Et là, ce qui est utilisé, en fait, c'est le cycle de 400 000 ans, celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui est extrêmement stable pour ces essais de calibration. Donc ça, c'est en cours, mais ça tourne autour encore de 66 millions d'années. Et un autre exemple intéressant, alors plus ancien, mais je trouve qu'il est, il a le mérite d'être assez convaincant, enfin moi en tout cas, ce sont des séries d'alternance marno-calcaire, donc comme le site de Zumaya, mais c'est en France. C'est une période qui est donc... alors moi, il faut que je le lise, hein, c'est le Kimmeridgien. Donc c'est autour de 150 millions d'années. Donc c'est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire qu'ici, aucune chance de faire une calibration directe à l'excentricité. Les minimums d'excentricité ne seront pas au bon moment. Mais en revanche, alors, ces cycles, ces alternances de calcaire et de marne, ça a été reconnu depuis longtemps, enfin je ne sais pas depuis quand, mais que ce sont des cycles dus à la précession, donc comme dans le cas de Zumaya. Donc c'est encore ce mouvement de précession qui est amplifié par l'excentricité. Et ce qui se passe, c'est là vous avez des mesures. En fait, ce qu'a fait Boulila, qui est un étudiant donc, de Bruno Galbrin, ils ont fait un échantillonnage très précis, tous les 5 cm, de ces données, de cet affleurement. Et ils ont mesuré donc, la susceptibilité magnétique et puis le taux de carbonate. En fait, dans tous ces problèmes, disons, peu importe finalement l'indicateur qui est utilisé, à partir du moment où on a une machine climatique qui le fait varier, forcée par l'insolation, on va avoir un indicateur bon, qui varie plus ou moins bien, mais qui va varier en fonction de ces variations climatiques. Et là, vous voyez, vous avez des variations importantes entre les périodes de calcaire et de marne, mais ça, c'est le cycle de précession. Mais ce n'est pas ça qui va être intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est ensuite de voir l'amplitude de ces variations. Donc plutôt, regarder les minimums, comme ça, et ensuite, la variation de ces minimums. Et là, ça va donner non pas le cycle de précession, mais le cycle d'excentricité, puisque là, maintenant, ça va être l'amplitude de la précession, c'est l'excentricité de la Terre qui le module. Donc là, normalement, on se retrouve avec un cycle d'excentricité. Et comme ça, ça a été fait sur... alors, l'excentricité, je vous ai dit, l'excentricité, on ne sait pas quand on a des minimums, quand on a des maximums, on n'a pas la datation précise, mais on a par-dessus ce cycle de 400 000 ans qui, lui, est très précis. Donc là, on a comme ça une mesure locale très précise de cette partie géologique. Alors, on n'a pas un raccordement, donc on n'a pas une mesure absolue, parce que pour avoir la mesure absolue, il faudrait l'ensemble des cycles depuis des points de repère bien connus. Donc ça, ce n'est pas le cas, mais je dirais que pour le moment, ce qui est en train de se faire, c'est justement comme ça, à différents endroits, d'avoir des données locales, de repérer ces cycles, qui peuvent ensuite être après corrélés les uns aux autres, éventuellement avec les renversements paléomagnétiques qui sont repérés à différents endroits. Mais là, en tout cas, ça redonne des datations pour les périodes, donc les différentes petites bêtes qui apparaissent. Donc là, on a apparition d'une espèce, disparition. Donc ça donne aussi des repères et ça permet là de remesurer ces éléments. Et c'est fait, finalement, ça marche assez bien. Je pense que dans d'autres... Là, ce sont des données qui correspondent bien à ce qui avait déjà été trouvé donc, et publié dans cette référence qui est ce Geological Timescale 2004. Mais il y a d'autres exemples, j'aurais dû les prendre, mais je ne les ai pas là, où cela a obtenu des résultats assez différents de ce qui avait été publié. Et a priori, la méthode est très convaincante. Donc ça, c'est actuellement, beaucoup d'équipes donc, cherchent à reconnaître ces cycles de 400 000 ans dans ces données géologiques. Et alors maintenant, il y a un autre aspect qui est, après tout, si ces données géologiques ont une trace de la variation de l'orbite de la Terre, est-ce qu'on va pouvoir les utiliser aussi pour retrouver des variations de cette orbite et contraindre donc le mouvement de l'orbite de la Terre. Alors, une chose qui est intéressante, c'est, je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement de l'orbite de la Terre était chaotique, et de la Terre et en fait de toutes les planètes intérieures. Et ce chaos, un des premiers, disons qu'un exemple de mouvement chaotique, c'est vraiment le mouvement du pendule perturbé. Et en fait, quand on a le pendule, on a une oscillation, il faut penser à un pendule rigide, et on a des oscillations qui peuvent, on a une position d'équilibre instable en haut, et on a des oscillations donc, qui peuvent aller d'en haut, osciller et arriver jusque de l'autre côté. Et là, il faut très peu de choses pour qu'au lieu de revenir en arrière, on passe de l'autre côté. Donc le chaos, c'est là qu'il naît. C'est autour de ces positions d'équilibre instable. Et donc, en fait, pourquoi j'ai parlé de résonance tout à l'heure, c'est que partout, quand on a différents mouvements, c'est quand on a résonance, c'est-à-dire une fréquence dans le système qui est la même qu'une autre, hein, on va avoir localement des mouvements du genre de ce mouvement de pendule. Et alors, on pourra avoir ces petites oscillations du pendule pendant longtemps, et puis avoir passage de l'oscillation à circulation. Donc c'est vraiment une manifestation de ce mouvement chaotique, et puis un moment crucial dans le changement d'aspect de la solution. Donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, là, c'est en fait là une solution ancienne de 90 du mouvement du système solaire. Ici, on a cet argument résonant, donc c'est ce pendule. Là, il est en oscillation, et puis hop, là, il est passé en circulation. Et dans les solutions plus récentes, en fait, il reste en oscillation, en libration. Donc, on a notre pendule qui continue d'osciller comme ça. Et puis, autour de 40 millions d'années, eh bien, les solutions donnent des choses différentes. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas bien actuellement si la bonne solution, c'est la verte, la bleue, la orange. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. L'intérêt, donc, de la géologie, c'est on va essayer, à partir des données géologiques, l'idée, c'est est-ce que les données géologiques permettent de discriminer entre ces différentes solutions et permettent de dire laquelle de celles-là est la bonne. Donc c'est ça un peu le défi actuel. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a divergence de ces solutions. Donc je vous ai dit, on perd un chiffre tous les 10 millions d'années. Mais bon, cette divergence, on l'avait aussi dans le passé. Et l'idée, c'est que même si on a une donnée très imprécise, comme une donnée géologique, si on a cette donnée il y a 100 millions d'années, mettons, eh ben, ça donne une contrainte de 10-10 sur le modèle actuel. Le tout est de reconnaître, dans les données géologiques, ces résonances et ces arguments. Alors ça, c'est assez, je dirais, ce n'est pas complètement évident, mais il se trouve qu'actuellement, en fait, chaque fréquence. Vous voyez, dans l'obliquité, par exemple, en fait, non, il faut que je revienne sur le transparent précédent. Vous voyez, ces résonances correspondent à des mouvements entre le périhélie de Mars, le périhélie de la Terre, le plan de l'orbite de Mars, le plan de l'orbite de la Terre. Alors ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. On ne va pas voir ça directement dans les données géologiques. Et vous voyez que dans des périodes comme celle-là, les deux différences sont dans un rapport 2 à 1. En fait, il y en a une qui fait 1,2 million d'années de période et puis l'autre 2,4 millions d'années de période. Et puis, dans une période de transition comme ça, ça pourrait passer à 1 et 1. C'est-à-dire les deux périodes les mêmes. Au lieu d'avoir un facteur 2 entre les deux, avoir la même valeur. Et alors, ce qui se passe, c'est que ces petites périodes individuellement sont de l'ordre de 100 000 ans. Ça, il n'y a aucune chance qu'on les trouve dans les sédiments anciens. Par contre, trouver des périodes de 2 millions 4 années ou de 1 million 2 années, eh bien, on a des chances de le trouver. En fait, il y a beaucoup d'activités actuellement qui consistent à rechercher ces périodes. Et en fait, on peut les trouver parce que ça apparaît comme des battements dans la solution. Vous voyez ici, ça, c'est l'obliquité. Dans l'obliquité, on a deux périodes de 40 000 ans à peu près, mais la différence des deux donne la période que l'on cherchait, de 1,2 million d'années, qu'on voit très bien ici. Et de même, dans l'excentricité, en fait, on va trouver, pareil, des périodes de 2,4 millions qu'on voit aussi assez bien. Et en fait, il y a actuellement, on a aussi bien des exemples comme celui que je vous montre ici. Ça, c'est une analyse de série ODP qui va de 12 millions d'années à 28 millions d'années. Voilà la bande d'obliquité. Ça, c'est la variation d'amplitude dans cette bande. Donc, vous voyez bien, ça, c'est la même chose dans la solution astronomique. La variation d'amplitude, ici, cette variation, c'est le 1,2 million d'années. Et vous voyez bien qu'on a, on retrouve dans les données géologiques très bien ce signal. Et de la même manière, il y a d'autres exemples où on voit ce signal dans l'excentricité, dans le 2,4 millions. Mais je dirais que pour le moment, ben, c'est un projet, c'est un espoir d'arriver à bien discerner ça. Et en tout cas, ça motive beaucoup les géologues aussi comme marqueur de périodes assez longues où on peut se repérer. Et voilà, je crois que je vais arrêter là pour cette fois-ci.
Jacques Lascar, astronome membre de l'Académie des sciences, vous expliquait les détails de la théorie de Milankovitch sur la calibration astronomique des échelles de temps, théorie qui a vu le jour dans les années 50 et qui a été validée en 2004 par les instances officielles. Cette communication avait lieu au Bureau des longitudes à l'Institut de France en mars 2009. Des conférences mensuelles qui sont ouvertes au public, vous pouvez consulter leur programme annuel sur le site bureau-des-longitudes.fr. Les conférences du Bureau des longitudes sont transmis sur le site de Canal Academy. Vous les retrouverez dans les émissions en colloque ou en cliquant sur le thème astronomie. Elles restent en libre écoute sur notre site. Merci et à bientôt pour de prochaines retransmissions.